When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bienvenue pour ces 10 minutes de géopolitique de cette semaine. Une actualité extrêmement riche, riche en événements et riche en enseignements, notamment en Grèce et en Arménie. Alors commençons par la Grèce où se sont tenues des élections législatives, élections prévues par le calendrier. Et le résultat de ces élections a encore une fois, pourrait-on dire, devrait-on dire même encore une fois, déjoué les pronostics bien hasardeux qui avaient été faits. Quand on lit les sondages des jours ou des semaines avant les élections, eh bien le parti de Alexis Tsipras était donné soit vainqueur, soit au coude à coude avec le parti de l'actuel Premier ministre qui est à la tête d'une coalition de droite Nouvelle Démocratie. La défaite de l'actuel Premier ministre était annoncée, victoire attendue d'Alexis Tsipras, ou du moins, si ce n'est la victoire, le fait de le talonner de près. Eh bien, les résultats ont été complètement différents, puisque le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis l'a emporté avec près de 41% des voix, quand Alexis Tsipras, avec Syriza, n'a fait que 20%. Donc une très très large victoire du mouvement de Nouvelle Démocratie, et ensuite les voix sont émiettées entre différents mouvements. Le Parti Socialiste a fait 11%, le Parti Communiste 7%, et l'ancien ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui était ministre des Finances d'Alexis Tsipras, qui a eu son heure de gloire à la fin des années 2000, eh bien celui-ci n'a pas pu atteindre le seuil des 5% qui est nécessaire pour avoir des députés. Donc, on le voit, une très large victoire de l'actuel Premier ministre. Et encore une fois, beaucoup de commentateurs ont pris leurs rêves ou leurs désirs pour des réalités et ont été victimes de la pensée magique qui consiste à projeter sur les pays ce que l'on souhaite soi-même voir, notamment le fait que la Grèce va mieux. C'est pas que c'est un pays qui va bien, mais la Grèce va mieux, l'endettement a diminué, encore beaucoup à faire, mais l'endettement s'est un petit peu résorbé, le chômage est en diminution et il y a d'indéniables progrès économiques, même s'il y a toujours une inflation qui est importante et même s'il y a des réformes structurelles qu'il faut continuer à mener. Alors, il y a eu cette catastrophe ferroviaire terrible du mois de février dernier, avec près de 57 morts. Catastrophe terrible parce qu'elle est due à une défaillance des infrastructures. Le fait que ce sont donc deux trains qui sont entrés en collision, beaucoup d'endroits en Grèce où il n'y a qu'une seule voie ferrée, donc il faut que les trains s'arrêtent pour laisser passer l'autre. Et là, il y a eu un problème dans les communications qui fait que les deux trains se sont engagés sur la même voie, et comme c'est une voie unique, eh bien, ils sont entrés en collision. Cela a donné lieu à des manifestations très importantes dans tout le pays, mais effectivement, le Premier ministre n'était pas responsable de cet accident. Il y a encore des enquêtes en cours pour définir les responsabilités, mais on ne peut pas reprocher à un chef de gouvernement, quel qu'il soit, un accident de train où, manifestement, ce n'est pas lui qui conduit les trains ni qui organise les passages sur les voies. Et tout cela a abouti à une victoire dans un contexte régional qui est compliqué, puisque Erdogan a failli remporter de peu les élections présidentielles. Il a fait 49,5%. Il sera probablement, sauf surprise, enfin, il sera réélu président. Et donc, face à cet ennemi de la Grèce, face aux velléités néo-ottomanes d'Erdogan, eh bien, beaucoup de Grecs ont estimé qu'il fallait avoir un homme d'expérience et un homme qui puisse affronter ce nouveau sultan. Cela a pesé aussi dans le résultat en faveur du Premier ministre. Alors, néanmoins, il ne pourra pas être reconduit parce qu'il n'a pas d'alliés, donc il ne parviendra pas à avoir une majorité, il n'a pas assez de députés à la Chambre. Donc il y aura de nouvelles élections soit fin juin, soit début juillet, avec cette subtilité dans la loi électorale grecque que lorsqu'il y a une deuxième élection, eh bien, le parti qui arrive en tête a une cinquantaine de voix, enfin, pardon, une cinquantaine de députés automatiques. Alors, ça dépend après des résultats qu'il va faire, mais il est assuré d'avoir quasiment 50 députés qui lui seront donnés puisqu'il sera en tête, et avec ça, il aura sa majorité absolue. Donc, il faudra attendre encore un petit peu avant qu'il puisse établir un nouveau gouvernement et qu'il puisse diriger et poursuivre les réformes qui ont été menées en Grèce. La Grèce vit beaucoup du tourisme, à la fois pour les hôtels, pour les musées, pour les restaurants, mais tout le reste, hein, souvent on a une vision du tourisme qui est un peu limitée. Le tourisme, c'est pas que l'activité de la plage et des hôtels. Quand on va au restaurant, enfin quand des touristes vont au restaurant, ils consomment des produits locaux. Donc ça veut dire que ça tire aussi l'activité du vin, l'activité de la bière, l'activité agricole de manière générale, que ça fait fonctionner les loueurs de voitures, donc également l'activité automobile. C'est toute une économie qu'il y a derrière. Et comme le disait Frédéric Bastiat, en économie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et le tourisme tire derrière lui tout un pan de l'économie que l'on ne voit pas, mais qui est important. Et la Grèce s'en remet après ces 2 ans de confinement qui ont été très difficiles pour un pays qui vit beaucoup du tourisme. L'autre événement majeur de la semaine, c'est l'annonce de Nikol Pachinian, donc nous sommes en Arménie, annonce qu'il reconnaissait la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le territoire du Karabakh et qu'il allait désormais négocier juridiction de fait de l'Azerbaïdjan sur ce territoire. Alors ça a surpris, ça a pris de court beaucoup de partisans d'un Karabakh arménien, mais ça permet d'avancer sur le dossier. Alors il faut voir ensuite ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la négociation de la frontière notamment, sur la sauvegarde des populations arméniennes. L'Azerbaïdjan s'est opposé à un statut particulier pour les Arméniens du Karabakh, en estimant que si ce sont des citoyens de l'Azerbaïdjan, il n'y a pas de raison qu'ils aient un statut juridique particulier, que ce soit des citoyens à l'écart. Alors ça se comprend, ça a sa légitimité, mais évidemment, ça suscite aussi des peurs au niveau des Arméniens sur ce qui pourrait advenir. Donc cette annonce de Nikol Pachinian, c'est un pas de plus vers une normalisation de la question, mais ça ne résout pas les problèmes, loin de là. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Là, je vous renvoie à un entretien de Tigran Yegavian qui est paru sur le site internet de Conflit, qui explique très bien tous les tenants et aboutissant, je vais résumer ses propos en quelques mots, mais on a là un emboîtement de plusieurs effets géopolitiques. C'est le cas typique d'une poupée russe géopolitique. L'Arménie a toujours considéré que la Russie était son allié traditionnel et que la Russie était un allié acquis, et que quoi qu'il arrive, la Russie protégerait l'Arménie. Ça a fonctionné pendant plusieurs décennies, jusqu'en 2020 où la Russie n'a pas protégé l'Arménie lorsqu'il y a eu l'attaque de l'Azerbaïdjan, et la Russie aujourd'hui n'a pas intérêt à protéger l'Arménie et a plutôt intérêt à être du côté de l'Azerbaïdjan. Ça, c'était avant l'intervention en Ukraine. L'intervention en Ukraine a évidemment rebattu les cartes, et aujourd'hui la Russie n'a plus vraiment les moyens de contrôler son ancien espace soviétique. Et derrière, on a des Occidentaux qui ne voient pas d'un mauvais œil le recul de la Russie dans le Caucase. Donc c'est un coup dur pour l'Arménie, c'est aussi un coup dur pour la Russie qui voit son influence disparaître, s'étioler. Elle a quand même une part de responsabilité dans ce mouvement. Et puis, évidemment, il y a la question des Européens. Et là, nous sommes face à un dilemme. C'est que les Européens, et la France en premier lieu, n'ont pas d'intérêt immédiat dans la région et n'ont pas d'intérêt à soutenir les Arméniens. Ils ont plutôt intérêt à soutenir l'Azerbaïdjan, puisque ce pays dispose de réserves de gaz et de pétrole. C'est pas très important dans le marché global de l'énergie en Europe. C'est à peine 2%. 22% quand on se prive des hydrocarbures russes et quand il y a des tensions sur les prix mondiaux, ça compte. Et il est vrai que L'Arménie, elle, ne dispose pas de ce genre de choses. Alors, il y a certes des intérêts culturels, des intérêts religieux, puisque l'Arménie est chrétienne. Il y a des affinités, bien évidemment, séculaires, du fait notamment de la présence d'une forte diaspora arménienne en France et en Europe. Mais on voit que ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a aussi une responsabilité de l'État arménien qui, pendant plusieurs années, s'est un peu endormi sur ses lauriers et a considéré la situation comme acquise et n'a pas vu que l'Azerbaïdjan a non seulement réarmé, mais était prêt à une intervention militaire. Et une Arménie qui a considéré aussi que ses alliés la soutiendraient quoi qu'il arrive et n'a pas cherché à avoir d'autres alliés ou n'a pas forcément compris que la situation avait évolué et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un soutien européen ou d'un soutien russe, comme elle avait eu tendance à l'avoir dans les années passées. Donc ce que nous apprend cet événement, c'est que d'abord, rien n'est terminé, il va falloir continuer à suivre ce qui se passe, et nous ne sommes qu'au début d'un processus. Un assassinat de Pachignan n'est pas à exclure non plus, c'est déjà arrivé que des premiers ministres se fassent lyncher ou assassiner en Arménie, donc sa vie est en jeu, et si ça a été le cas, évidemment, ça rebattrait pas mal de cartes. Et ça nous montre aussi que les positions d'alliance, d'amitié ne sont jamais figées, et qu'un État doit sans cesse travailler à maintenir ses positions, à entretenir ses relations, sinon il court le risque d'être balayé.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.